Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto sur Campus Lille de 11h à midi. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Guy Pilarczyk pour l'essentiel de l'info de la moto tout-terrain. Guy, bonjour.
Bonjour la biche,
On commence mal l'année quand même.
Mal l'année, ouais. En effet, peux-tu...
Bah oui, parce qu'on a appris que Jean-Claude Olivier est décédé hier sur l'autoroute A1. Un camion a traversé le terre-plein et a percuté sa voiture de plein fouet.
Oui.
Et franchement...
et c'est une personne immortelle.
Bah, on l'avait rencontré, on a fait une interview avec lui. C'était un passionné de bécane. On sait que son auto, Yamaha, lui doit toute sa notoriété en France, en fait, hein, Jean-Claude Olivier.
Et Jean-Claude est originaire de Roubaix. Parce que voilà, je le connais, je l'ai connu il y a à peu près 30 ans, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une ouverture d'un magasin Yamaha, il venait. À ses débuts, il venait avec une camionnette.
Oui, une espèce d'estafette.
Estafette, ouais. Enfin, ça, je ne l'ai pas connu. Et son père était constructeur de métiers à tisser. Alors, il travaillait dans le textile, je le connaissais. Et Jean-Claude a une résidence secondaire ici, près du Touquet.
800, je crois. Il était passionné de voile aussi.
Voilà.
Et puis, effectivement, c'est lui qui a trouvé les pilotes. Patrick Ponce, Christian Sarron, il a fait le Dakar.
Il a failli le gagner, même.
Oui. Yamaha lui doit vraiment tous les grands noms, en fait.
En parlant de vitesse, il y a le cross aussi, avec Jackie Vimont, De Maria, des pilotes. André Malherbe aussi. Il a fait énormément de choses pour la moto en France. Et il a remonté aussi cette marque en tête par rapport à une autre marque rouge.
Oui. Voilà, triste nouvelle. C'est une très mauvaise début d'année. Hein,
Alors qu'il était en retraite il y a 2 ans.
C'est consternant un peu. Bon. Enfin, on va parler aussi du Dakar en Argentine.
En effet, du Dakar en Argentine et aussi de l'Africa Race. Donc on aura Jérôme Elena au téléphone parce qu'il vient de rentrer hier.
Il y a un peu de Touquet peut-être.
Et du Touquet.
En 3 semaines. Hein,
et du Touquet également. Oui.
Voilà. Allez, un petit peu de soleil et de chaleur avec notre invité Stéphane. Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Stéphane, tu vas nous raconter ta balade de Las Vegas à San Francisco, dans Nevada, Californie, Utah, et tout ça en Harley-Davidson.
Exactement, pour essayer de donner un peu de chaleur, parce qu'il y en a besoin
actuellement. Il faut nous remonter le moral, là, parce que là, les motards, ils vont avoir un peu le blues.
Faire un peu rêver tout le monde.
Ça va nous faire du bien un peu. Donc, tu as parcouru tous ces états là, en Harley-Davidson, une bécane que tu as louée là-bas.
Exactement.
Sur place, hein. C'était plus facile que de la ramener de France.
C'est un peu compliqué avec les Américains.
C'est un peu moins cher, puis c'est moins compliqué aussi.
Voilà, parce qu'il faut importer la moto par avion, c'est considéré comme un matériel dangereux, avec l'essence, etc. Et avion plus matériel dangereux avec les Américains, ça passe pas très bien.
Ouais, on comprend. Tu as un blog, hier j'ai visité ton blog, alors ça fait rêver. Hein,
c'est un blog sur...
Une ville complètement démentielle. Hein,
On adore ou on déteste. Mais ça laisse pas différent.
Il faut en prendre et en laisser un peu quand même. Hein.
C'est un peu ça.
Ou en laisser ou en prendre, je sais rien, d'en écouter.
Voilà.
Voilà, très bien. Et bien, on se retrouve après notre premier morceau de musique. Heading down to the liquor store, gonna buy another bottle of gin. 3 o'clock in the afternoon, just look at the shape that I'm in. Found a shirt, threw my headphones on, I only got one flip-flop. Bare feet burning on a Sunday street, but the music, it just don't stop. Singing now, I'm feeling the music. I'm feeling the music. Don't you know I feel now? I'm feeling. Early in the morning, I'm giving you my warning, and I tell you what, don't give a damn. cause my head is still reeling and I start to get the feeling things ain't going the way that I planned. You know, rent's late, I feel great even though I ain't got no cash. I know you might be thinking that I spent it all on drinking and you're right and you can kiss my ass because I'm feeling the music. I'm feeling the music. Don't you know I feel it now? I'm feeling the music. Ah, nah, nah. Don't you know I feel it, babe? I'm feeling the music. I'm feeling the music. How about you know, baby? I'm feeling the music. How'd you know I feel it now? I'm feeling the music. I'm feeling the music. Ah, nah, nah.
Magazine de la moto, c'est sur Campus le dimanche de 11h à midi. Aujourd'hui avec Guy Pilarczyk pour la moto tout-terrain. Guy, on parle forcément du Dakar. Hein,
du Dakar.
Aujourd'hui, c'est la journée de repos là-bas. Hein.
Aujourd'hui,
ils sont en Argentine.
Ils sont en Argentine parce que hier, c'était flagrant. Gérard Holtz a dansé le tango avec un homme.
Ah ben voilà, donc
Donc on était en Argentine.
Avec un, bah.
Alors on va parler du Dakar et aussi, triste nouvelle, c'est le décès d'un pilote aussi. Qui a percuté une camionnette des carabiniers argentins là-bas. Il s'appelait Thomas Bourgoin. Il venait de la région de Saint-Étienne. Voilà. Il était 68e au général. Donc c'était déjà une bonne performance parce que bon, ils sont à peu près 150. Alors, comme tu disais, aujourd'hui, repos, parce que il faut se reposer. Et hier, épreuve plus ou moins annulée, ou reportée. Enfin, ils ont changé de piste, étant donné que des pluies diluviennes ont tombé là-bas, en Argentine. Et Thomas Bourgoin avait fini aussi quatrième en 2011 à l'Africa Race. Africa Race qu'on aura tout à l'heure. En direct avec Jérôme Elena, qui lui revient d'Afrique avec ce rallye. Alors, qui c'est qui, au général, après ces 7 épreuves du Dakar, 8 épreuves du 8e épreuve du Dakar, c'est David Casteux sur Yamaha, et qui est à 19h56 33 secondes au général, et le deuxième, Cyril Desprez qui a eu des problèmes de machine,
de
boîte de vitesse, et un concurrent polonais lui a...
Ils sont sympas les Polacs, hein.
Ah ça,
Guy.
Hein, bah, la preuve.
Guy Pilarczyk, ils sont sympas les Polacs.
Ah, bon, écoute, moi je ne l'aurais pas donné. Hein.
Toi tu ne l'aurais pas donné, ah, moi je me doute bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc le concurrent a dû abandonner, alors
ouais,
comment ça s'est passé?
Ben c'est pas
il a fait par sympathie comme ça.
Par sympathie, parce que bon, soit...
Ouais, ou autre chose,
soit, peut-être. Ouais, enfin, c'est-à-dire, comme c'était KTM, bon, peut-être qu'il y aura quelque chose en retour, enfin,
ouais, bien sûr.
On ne sait pas. Donc, Cyril Desprez, au départ du Dakar, il était déjà vainqueur, enfin, tout le monde le mettait vainqueur, mais... un rallye de 15 jours, on peut pas, il peut toujours avoir une casse, la preuve. il y a quelque temps, dans une épreuve, il s'est perdu aussi. Mais il est deuxième, mais seulement à 9 minutes 26.
Il n'y a pas beaucoup d'écart.
Il n'y a pas beaucoup d'écart. Et Casteux s'était perdu aussi à un moment. Tu sais, parce qu'ils sont guidés par GPS, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et aussi, signalons aussi deux pilotes nordistes qui sont en course, toujours en course. Il y a le numéro 100, c'est Eric Croquelois, pilote qu'on avait vu à Hazebrouck il y a quelques années, quand il y avait les départs, les gros départs de France.
Ah oui, je me souviens, il y avait le team Friterie, là, je sais pas quoi. Les ch'tis là-bas au Dakar. Ils voulaient faire des frites après les.
Ouais.
Alors ils faisaient le Dakar et après ils faisaient des frites le soir.
C'était
le truc de fou, ça.
C'était une friterie.
Faisait le Dakar. Ah oui, bah Stéphane, il rigole, mais non, c'est vrai. C'est pas une bêtise.
Comme ça, ils ont fait connaître la fameuse saucisse.
La fricadelle.
La fricadelle.
Là-bas, en Argentine.
Avec la baraque à frites.
Ils ont développé avec la baraque à frites. Non, mais c'était pas une remorque.
Non, mais ils auraient pu.
C'est pas une blague, c'est vrai. Ils ont pas fait un parcours, un temps fantastique, mais bon. Ils ont participé.
Je ne sais pas, il devait quand même attendre après que l'huile se refroidisse avant de partir.
Oui, alors quand tu vois les images, quand on voit le parcours où il passe, à mon avis, ça devait bien remuer quand même.
Mais après, l'huile pouvait servir aussi pour les moteurs.
Ça peut servir pour les moteurs, ça peut servir à tout.
Ou l'inverse.
Alors, Eric Croquelois, qui est de Boulogne-sur-Mer, il est 70e au général, à 6 h 6 min du premier. Et Olivier Mutelet, qui est venu dans les studios il y a 2 ans, il habite pas loin de chez moi, il est 102e, mais il est à 8 h 44 du premier. Voilà pour les dernières informations sur le Dakar, et puis musique.
Le magazine de la moto sur Campus Lille. Nous avons Jérôme Hélène au téléphone.
Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour tout le monde.
Alors, tu descends d'avion, tu as posé tes pieds dans le nord, dans la neige.
Ça fait drôle.
Oui, ça fait drôle, oui. Il y a un changement de climat qui est...
Tu passes de combien à combien ?
Oh, bah là-bas, on est quand même en hiver là-bas, mais bon, il fait de quoi ? Il fait 27, 28 degrés.
Ah, quand même.
Sur le Sénégal.
Et ici, il fait moins 20.
Et puis, ici, c'est un petit peu drôle que quand on descend.
Donc, tu as déposé ta caisse à outils avec toute ta panoplie de clés de 10, les plates,
les pipes,
les AEI, et tout.
Voilà. Tout ce qui s'ensuit, exactement.
Donc, tu es rentré sain et sauf, et puis malheureusement, ton pilote devait monter sur le podium, et puis panne d'essence.
Exactement, ouais. Donc, je faisais la mécanique de Norbert Dubois, donc en début de course, qui était cinquième, et puis au fur et à mesure des jours qui avançaient, on a remonté, pour arriver jusqu'à la première place au classement général. Donc, ce qui était vraiment bien. Donc, à savoir quand même que Norbert a fini plusieurs fois deuxième. Donc, cette année, on comptait vraiment arriver premier. Et ça se passait vraiment comme on le voulait. Donc, moi, je faisais tout ce qu'il fallait pour qu'il ait vraiment une moto super chaque matin pour repartir. Et malheureusement, donc, on arrivait le mercredi. Et dans la nuit de dimanche à lundi, donc le dimanche soir, il a fait une grosse erreur de navigation. Qui l'a emmené vraiment dans les dunes en plein désert, ce qui lui a fait faire bien plus de kilomètres que prévu. Donc il n'a pas su arriver au CP2 pour le ravitaillement essence, et malheureusement il est tombé en panne d'essence. Et là, bien sûr, comme il n'était pas sur la piste, personne n'est passé pour le dépanner en essence, et il a malheureusement dû passer la nuit dans le désert, dans les dunes. Donc c'est l'armée mauritanienne en fait qui l'a prise en charge, hein, parce que c'est quand même eux après qui sont responsables des pilotes moto perdus. Et bon, ils avaient de l'essence avec, et puis la nuit était tombée, ils l'ont interdit à repartir. Donc là, bien sûr, toutes les chances se sont envolées malheureusement.
Et donc cette victoire revient à un Belge.
Alors ouais, c'est les Belges qui nous ont soufflé la victoire. Donc, c'est un monsieur de 54 ans en plus quand même, chapeau, qui a remporté l'épreuve, juste à notre barbe, dirons-nous.
Et tu sais qu'il y avait une colonie de Belges à ce Africa Race, ils étaient une centaine.
Ah, il y avait pas mal de Belges.
Oui, oui. Donc c'était une épreuve pour eux, alors.
C'était une épreuve pour eux, oui.
Est-ce que tu peux redonner un peu l'Africa Race?
Oui, parce que tu sais, c'est pour ça, c'est pour les auditeurs. Hein, parce que c'est l'ancien Dakar, hein, en fait. On n'a pas le droit de l'appeler comme ça, mais bon.
Oui, on n'a pas le droit de... Bah, d'ailleurs, justement, en parlant de ça, ils se posent la question sur le vrai Dakar, à savoir s'ils allaient vraiment garder le nom de Dakar. Mais bon, nous, on parle de l'Africa Race. Donc, en fait, le Dakar, ce sont vraiment des anciens, dirigeants du Dakar qui ont voulu refaire une épreuve en Afrique, puisque maintenant, malheureusement, le Dakar est devenu une course américaine. Et donc c'était Hubert Auriol, bien sûr, qui avait lancé cette course, et qui a ensuite été repris par René Medge et Jean-Louis Schlesser. Et donc, ce sont tous des anciens qui ont plus que participé au Dakar et qui ont même gagné des Dakar, qui ont refait cette épreuve. Et en plus de la course qui repart en Afrique, donc c'est aussi un but d'amener des affaires médicales sur le rallye. Donc, c'est aussi une course à but humanitaire, on va dire, quoi.
D'accord. J'ai vu aussi, il y avait quand même pas mal de pilotes autrichiens. C'est assez bizarre de voir des pilotes autrichiens, non ?
Bah alors en fait, on a eu une grande surprise cette année, c'est que ça a été la cinquième édition cette année. On voit vraiment que la course prend de l'ampleur, parce que cette année, on avait bien plus de nationalités que les autres années. On avait vraiment des Russes, des Espagnols, des Allemands, des Belges, des Autrichiens. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de nationalités de représenter, avec du matériel, mais alors vraiment digne des gros Dakar. Effectivement, ouais, il y avait beaucoup d'Autrichiens, donc à se surprendre si... Ils étaient en nombre, mais bon, tant mieux pour la course, quoi. Ça veut dire que c'est une course qui prend vraiment de l'ampleur. Et pour tous les amoureux de l'Afrique, en fait, pilotes, hein, ils sont contents d'avoir une grande, grande, grande course, parce que il y a eu des épreuves très, très difficiles. Donc, on a eu beaucoup de gens là qui ont fait plusieurs fois le Dakar et qui disent que vraiment, c'est digne d'un Dakar les plus durs, cette course Africa Race, quoi. Donc, c'est très, très bien. Tout le monde est content.
Est-ce que aussi au niveau sécurité, parce que vous passez par exemple par la Mauritanie, il ne faut pas oublier qu'en Mauritanie, le Dakar a été annulé il y a quelques années. Vous n'avez pas passé par la capitale, j'ai vu.
Si, on est pourtant passé par Nouakchott, mais bon, à savoir que justement, on a parlé avec les locaux et avec les militaires mauritaniens. Et ce qui se passe en fait, c'est que le gouvernement mauritanien a mis en place vraiment... comment dirais-je, ce qu'il faut en moyens militaires pour assurer déjà l'ordre dans le pays, hein, pas que pour nous la course qui passons, mais c'est vraiment, il y a beaucoup de Mauritaniens qui disent que la Mauritanie maintenant n'est plus celle d'avant, que le gouvernement a mis ce qu'il fallait en place pour la sécurité de tout le monde, et bien sûr de nous, du rallye qui passons. Donc il y a bien moins de risques en Mauritanie maintenant qu'il y a quelques années, effectivement en 2008, quand le Dakar avait été annulé, quoi.
D'accord.
Donc c'est devenu vraiment un pays assez sûr. Alors effectivement, on reste vraiment dans la Mauritanie côté ouest, hein, donc assez côté de l'océan. Bon, effectivement, pour pas trop rentrer dans les terres, parce que bon, il faut quand même pas non plus tenter le diable, comme on dit. Mais c'est quand même devenu un pays beaucoup plus sûr qu'avant, quoi. Bon, le Mali, bien, surtout avec les événements qu'on entend aujourd'hui et hier à la télé, il n'est pas question qu'on retourne plus dans les terres, quoi.
Ouais, c'est certain, ouais.
Mais c'est devenu quand même un pays beaucoup plus sûr.
Et tu parlais de ton pilote Norbert Dubois, mais tu avais plusieurs pilotes.
Oui, effectivement. Donc, dans notre team, dans le team qui s'appelait les Moteurs du Désert, donc on avait Christophe Conro, le numéro 102 qui finit à la cinquième place. Il y avait ensuite Pascal Boucher. Il y avait donc d'autres... on avait un quatrième pilote engagé, c'est quelqu'un qui venait de l'ex-Yougoslavie, là, qui n'est pas venu malheureusement avec nous, donc probablement qu'il n'a pas eu son budget. Et ensuite, il y a plusieurs catégories dans la course, ce qu'on appelle... donc les gens qui sont en course, bien sûr, il y a les raiders et d'autres, comment dirais-je, d'autres programmes de course, quoi. Donc on avait trois autres motos en plus, mais eux, on leur amenait qu'une assistance technique, on leur transportait des mâles, des pneus, et on leur mettait de l'air comprimé et de la lumière, quoi.
Et verbalement, vous lui...
Voilà, ils pouvaient nous demander des renseignements techniques orales, quoi. Donc on n'intervenait pas, mais sur leur moto. Donc en fait, on a été trois pilotes engagés en course et trois autres pilotes en raid.
Alors c'est reparti pour l'année prochaine pour toi, alors ?
Alors c'est reparti pour l'année prochaine, ouais, parce que vraiment, ils ont été très très contents de la prestation. Donc j'étais avec un autre mécanicien de Normandie. Donc on a vraiment essayé d'assurer la mécanique et de faire un bon bivouac et surtout d'être à l'heure. Hein. Faut partir très tôt, nous, assistants, faut partir tôt pour arriver tôt, pour que eux, quand ils arrivent le soir, tout soit installé. Donc ça, c'est vraiment, ils sont contents d'arriver, de voir que l'assistance est là, quoi. Ce qui n'a pas été le cas pour toutes les autres assistances. Mais donc, ils ont été ravis et puis à l'arrivée, on s'est fait un petit pot et tout le monde était d'accord pour repartir l'année prochaine et refaire la même structure, quoi.
Jérôme, c'est la cinquième édition, là, cette année.
Oui, c'est
et
ça, oui.
Tu as participé au 5?
Alors, non, pas du tout. Donc, en fait, moi, ma première...
Troisième, là, non?
Non, Jérôme,
deuxième.
Deuxième édition. Ouais.
La deuxième édition.
L'année dernière et cette année.
Ouais, c'est parce que je voulais savoir un peu si, bon, c'était un peu la course à l'armement ou c'était comme... si c'était encore abordable pour des gens qui n'ont pas trop de moyens, quoi.
Si. Alors, l'Africa Race reste abordable.
C'est la différence entre ça et puis le Dakar, là, qui, ouais, là on voit qu'il faut de l'argent pour faire ça.
Par rapport à un Dakar, c'est quand même beaucoup moins cher, l'Africa Race. Et on voit que c'est plus convivial, plus familial, c'est beaucoup plus petit en structure. Hein. Bon, c'est sûr, franchement, en un an de temps, hein, moi l'année dernière, je l'ai fait, je l'ai refait cette année, déjà en un an de temps, il y a une énorme progression. Norbert Dubois, lui, c'était la troisième fois qu'il faisait, donc il l'a fait à partir de la deuxième, quatrième et cinquième fois, pardon. Et lui, qui a connu les premiers presque, il dit chaque année, ça augmente.
Ouais.
Il faut rappeler quand même que la toute première édition de l'Africa Race, il n'y avait que 4 motos engagées, donc ça paraissait ridicule, tout le monde se moquait. Cette année, il y avait 36 motos engagées, ouais. Bon, ça reste pas, c'est pas un Dakar, non,
c'est
d'accord,
ça hein, reste encore correct.
Ouais. Mais ça progresse, quoi, ça fait que 5 ans tout compte fait, hein, quand on voit le Dakar, depuis combien de temps ça existe. Et on a vu les Russes qui amenaient du matériel, mais incroyable, et ça prend vraiment de l'ampleur. À savoir aussi que KTM officiel était présent sur le rallye cette année. Donc l'année dernière, ils avaient envoyé quelqu'un pour voir un peu, pour suivre toute la course et voir comment ça se déroulait. Et cette année, donc KTM était présent avec des pilotes de chez eux. Et en plus, ils ont fait un tournage de film pour KTM, quoi. Donc ça prend vraiment de l'ampleur, quoi.
Alors, Nigerum, parce que non, hein, ça s'appelle l'Africa Race, mais maintenant, enfin, avant et maintenant, cette année, ça s'appelle l'Africa Eco Race.
Oui.
Ça veut dire qu'en fait, il y a un peu, ça veut intégrer le développement durable.
Ouais. Hein,
donc tout avec pour aider les la population, les villages traversés. Alors je sais pas si ce que c'est la pub ou c'est vrai.
Le but donc c'est bien sûr partir éco dans le sens donc on n'est pas là pour vulgairement pourrir le pays, quoi. On n'est pas là pour le salir, on n'est pas là, donc on quitte les bivouacs propres, on aide la population, donc c'est un côté développement pour eux, nous on passe et on s'en va et tout reste propre et nickel. Donc bon, c'est aussi, puis alors le mot éco et écologie...
Oui, ça va bien actuellement, oui, c'est la mode.
Voilà, exactement.
Donc, ouais, bah oui, voilà.
Quel organisme maintenant ne prend pas le mot éco, quoi.
Très bien. Bon, bah écoute, Guy, voilà. Attends, je...
Bon, bah écoute, peut-être le mois prochain, si tu passes dans les studios, on en reparlera de cette course.
D'accord, c'est gentil.
Avec, en parallèle avec le Dakar, hein, qui aujourd'hui est une journée de repos.
Oui.
Et on en parlait justement, oui, il y a un pilote, là, Thomas Bourgoin, qui avait fini quatrième à l'Africa Race il y a deux ans.
Ouais.
Hein, et puis bon, qui s'est tué bêtement.
Ouais. Tout à fait.
Bêtement sur une liaison spéciale.
Ouais, tout à fait, ouais.
Bon, bah écoute, j'espère que t'as pas laissé
Guy, Jérôme, t'as appris le décès de Jean-Claude Olivier ?
Oui, bah oui, c'est Guy qui me l'a appris hier parce que.
Là, j'en veux vraiment au routier, hein.
Une triste nouvelle.
Ah, franchement, écoute.
Ouais, tout à fait. Alors, nous aussi, bon, il faut aussi rendre hommage à un monsieur qui est aussi décédé sur notre rallye à nous, mais comme c'est une course moins médiatisée. Mais bon, ça n'a rien à voir avec la course, mais c'était quand même un monsieur qui était en course, sur une liaison aussi, un monsieur de 54 ans, dans son 4x4, mais l'autre qui est mort d'un arrêt du cœur, quoi. Donc bon, il aurait pu mourir dans son fauteuil chez lui aussi, d'un arrêt du cœur, mais on a aussi eu un décès sur la course. Un monsieur de 53 ans, ouais, qui est décédé d'un arrêt du cœur en liaison dans son 4x4.
Eh bien, que des tristes nouvelles.
Voilà. Tout à fait, ouais.
Bon, en espérant que tu as laissé le désert propre, que tu n'as pas laissé tes clés de 10 traîner.
Et pas d'huile aussi, hein, parce que j'en connais qui glissent sur les bidons d'huile et ils font mal aussi.
En effet.
Ouais, justement, ouais, les huiles, non, mais vous rigolez, mais c'est très important. On avait une structure on a récupéré les huiles sales, les filtres à huile et tout, parce que ça, c'est vraiment une pollution forte. Donc, on était vraiment recommandé et vigilant à repartir en laissant des bivouacs extrêmement propre.
Alors, je voudrais bien savoir, quand tu fais la vidange le soir, tu la fais comme ça, tu récupères l'huile ou tu la laisses partir dans le sable ou...
Non, justement, on la récupère dans des bacs de vidange, on fait très
attention. Il y a Laurent Buffet, oh, des bêtes. Mais non, attends, je suis pas sûr que... Je suis pas convaincu qu'il...
Ah ben, faut venir. D'ailleurs, j'espère qu'il y a beaucoup...
Ah ben, je vais venir. Tu m'invites, je vais venir avec toi.
Non, mais si vraiment il y a des gens qui veulent le faire... je leur conseille vraiment de le tenter, c'est une épreuve moindre que le Dakar, moins cher, plus abordable et
plus humaine. Des courses comme aimait bien Jean-Claude Olivier.
Beaucoup de gens disent que c'est vraiment les Dakar du fondateur qu'on retrouve sur l'Africa Race.
Et surtout d'avoir un mécanicien comme toi.
Ah ben écoute, c'est gentil de le dire. Okay.
Et sans oublier que ton patron il est au Dakar, hein.
Exactement.
Alors vraiment, vous êtes dans la course.
Ouais. Donc il fait lui l'assistance sur le Dakar et puis moi j'étais sur l'Africa Race. Donc effectivement, on est à fond dans la course.
Ok Jérôme. Voilà. Allez, salut.
Ouais, je vous embrasse tous, à bientôt.
Ok, salut Jérôme.
Allez, bye, au revoir.
Allez, sur le magazine de la moto.
On entend
parler. Oui, il y a une raison. Il y a une grande raison. Voilà, on part de Don. Don, ici à pas loin, hein, Saint-Guin, hein, on prend le train, hein, régional, le truc. On prend carrément le train pour aller en Belgique.
Là, on a pris le train, ouais, vers Bruxelles.
Voilà, Don, Bruxelles, et là, hop, on prend l'avion et on
direction
Las Vegas.
Voilà, avec une escale à New York.
Vas-y, Stéphane.
Donc, Bruxelles, 8 heures de vol, on arrive à New York.
Alors, décalage horaire déjà. Ça commence à se sentir.
Ouais,
ça sent, hein.
Ensuite, petite escale, re 5 heures de vol. Et on arrive à Las Vegas.
Voilà. Donc, et là, Las Vegas, alors forcément, plein les yeux, hein, forcément.
Premier choc, la chaleur.
Oui,
déjà,
voilà.
Parce qu'on est parti d'ici, bon, c'était en juin 2011, on est parti.
Quand même, il y a même une différence en juin.
Oui, bah, il faisait une vingtaine de degrés ici, on arrivait là-bas, il faisait 47.
D'accord, ah oui, il faut
47 à l'ombre.
Ouais.
Donc,
alors, décalage horaire, la chaleur.
Grosse chaleur, dépaysement. Parce que forcément, quand on passe de Saint-Guin-en-Web à Las Vegas.
C'est pas pareil,
non, il y a un petit décalage, un petit choc culturel.
C'était la première fois que tu allais
là-bas. Oui, première fois aux États-Unis.
Ah oui, déjà, oui. Bon, la première fois, déjà, c'est impressionnant.
Bah oui, non, mais là, on a mis la barre assez haut tout de suite.
Bah oui, carrément.
Et donc, ensuite, le principe, c'était 3 semaines. Un circuit, grosso modo un triangle Las Vegas, San Francisco, Los Angeles, voilà. Retour à Las Vegas avec un petit détour par les parcs nationaux, les grands classiques, Grand Canyon, Monument de Valley.
Vous n'avez pas fait quelque chose de qui sort un peu de l'ordinaire, hein, c'est le parcours.
En fait, c'est un parcours qui existe, ça se fait beaucoup avec des agences de voyage spécialisées, mais nous on a fait le choix de partir.
Ça fait une belle balade.
C'est une belle balade. 4500 km
à peu près. Tout ça en Harley Davidson.
En Harley Davidson, puisqu'on l'a loué là-bas pour des raisons de simplicité. On avait possibilité de louer des BMW, des Honda, mais si on va aux États-Unis,
on est bien d'accord.
Je pense que c'est pour rouler en Harley avant tout.
Quand tu feras la balade au Japon, tu loueras une Honda
ou une Suzuki.
Voilà. Donc tu arrives là-bas à Las Vegas, il faut que tu nous racontes un peu quand tu arrives, tu descends de l'avion évidemment.
C'est le choc culturel.
Comment ça se passe
Visite.
Alors je vois sur ton blog, ça commence mal. Ça commence très mal. Il y a la photo de Céline Dion.
Ah oui.
Ça commence
ouais, mais
en grand.
Côté, c'est le premier truc qu'on a vu en sortant de l'avion.
Voilà. Je reprends un peu
ouais, non, mais
le
c'est
parcours
exactement
hein, de ton blog hein, hier. J'ai regardé.
Avant voilà. même de récupérer.
J'ai dit, ça commence mal pour lui.
Céline Dion, bah ouais, qui était au César Palace.
Il a même acheté un CD.
Ah non.
Voilà, donc, et puis
donc
après,
voilà, donc visite de tout ce qui est casino, évidemment, les hôtels qui
donc
sont super connus.
Donc Las Vegas, vous aviez préparé un petit parcours dans la ville pour découvrir un peu.
Oui, en fait, on partait de Las Vegas et on prenait la moto 2 jours plus tard.
Ah, plus tard, oui.
Donc
voilà.
Ça, c'était volontaire pour se remettre un peu du décalage, puis pour profiter, visiter un peu quand même. Donc,
alors, vous n'avez pas craqué le budget des vacances à Las Vegas quand même?
Non, même pas.
Hein.
Non, même pas.
Parce que c'est impressionnant, tu dis que les mecs, à 7h du matin, ils sont déjà là.
Ah, mais c'est 24
à la Budweiser et puis à la club dans hippie club dans les machins
ouais
hein.
C'est un truc qui nous a surpris
hippie club dans les trucs de jeu là hein.
Je pensais que les Américains étaient assez
incroyable,
restrictifs
ça.
Sur le tabac
tu vois,
mais en fait non
ça dépend
ça club
ils sont restrictifs ça dépend quand il y a de l'argent ils sont plus restrictifs
ouais ou c'est peut-être Las Vegas qui est un peu à
Las
part
Vegas,
ça
part,
doit
ouais.
être ça oui c'est vraiment leur terrain de jeu là-bas pour eux Las Vegas c'est le lieu de toutes les débauches.
Ah oui, voilà, et oui, alors tu es impressionné par les bâtiments. Hein,
ah, mais les hôtels.
Les hôtels.
Les hôtels, c'est 3 ou 4 ou 5 000 chambres, des fois.
Puis alors, c'est pas la petite chambre, hein, tu as apparemment.
Déjà les lits.
Le truc, oui.
Donc les lits, c'est minimum queen size ou king size, donc c'est les lits de 2 mètres sur 2 mètres.
Ils sont grands aussi, les Américains.
Ils sont grands et.
Ils sont gros, grands.
Certains, oui. Donc oui, bah, par rapport à nous, on était bien. Et souvent dans les chambres, parfois, il y avait même 2 lits. Donc,
mais les cloisons étaient très fines, d'après.
Oui, on a entendu ça. ça dépendait des
on
hôtels.
On peut pas tout avoir. Hein.
Non. Donc il y avait des hôtels qui étaient un peu plus confortables que d'autres.
Voilà.
Oui, il y en avait. La cloison était un peu fine et on entendait les ébats des voisins. Mais bon, ça fait partie du jeu.
Par contre, c'est pas cher, 60 € au César.
Non. Alors c'est ça qui est. En fait, l'hôtellerie aux États-Unis est relativement donnée.
Enfin, c'est-à-dire 60 multiplié par 4000 chambres, ça fait.
Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, ils se rentabilisent sur les casinos. C'est-à-dire que même les très bons joueurs sont invités carrément à l'hôtel, ils ne payent pas la chambre et les boissons sont offertes.
Ah ouais, il n'y a pas de client. Hein,
ils gagnent leur argent là-dessus.
Et tu dis qu'il faut y aller la semaine, c'est pas cher, mais par contre, le week-end, les chambres, le prix des chambres
C'est ça.
Est triplé.
Le prix des chambres est multiplié par je ne sais pas combien le week-end.
Plus,
parce que tous les Américains du coin, même tous ceux qui habitent à Las Vegas, qui est à 4 heures de route à peu près, viennent se défouler à Las Vegas.
C'est un sacré défouler.
Donc les prix augmentent.
Ah ouais, d'accord.
Mais effectivement, on peut ruser et y aller la semaine et c'est pas cher.
Je vais te dire un truc, je suis sûr que notre technicien en or nous a préparé une musique
qui colle bien avec le sujet.
Voilà, aujourd'hui dans le magazine de la moto, nous sommes tous des Américains avec Stéphane.
Eh oui.
Bah oui, donc on passe Las Vegas parce que bon, c'est bien, mais il faut.
Voilà, il faut rouler un peu.
On va pas rester toute la semaine, alors on va aller chercher la moto.
Voilà, donc moto de location.
Est-ce que tu avais déjà conduit une Harley Davidson?
Jamais.
C'est gros, c'est lourd.
C'est très gros, c'est très lourd et c'était vraiment une première.
Donc c'était. Oui, parce que toi, tu t'es avec un Honda.
Suzuki.
Un Suzuki.
Suzuki GSX-F 750.
Donc c'est pas du tout le même style de machine.
Pas du tout, du tout. Bon, ça fonctionne à peu près pareil. Donc en direction le loueur, il nous explique rapidement, hein, c'est vraiment comment ça fonctionne. Enfin bon, bref, mis à part la présence de l'autoradio, de régulateur de vitesse, il y a tout, autoradio CD, magnifique.
Et des magnifiques sièges que Valérie a...
Ah oui,
alors, on va dire bonjour aussi à
oui,
ta femme.
Bonjour.
Bonjour Valérie.
Donc oui, qui a beaucoup apprécié le confort du siège arrière, parce que c'est vraiment
c'est important, un fauteuil
roulant.
Ah, c'est important pour
la passagère. Ouais. Ah oui, là, mais là d'ailleurs elle en veut une, bon c'est encore un petit peu cher en France.
Surtout qu'on est que simplement au début du voyage, hein, tu prends la moto et vous allez en 4500 km.
Voilà.
Et donc là, la passagère a tout intérêt à avoir un bon siège.
Exactement. Et c'est surtout la découverte de la moto qui fait 400 kg.
400 kilos, oui.
Par rapport aux 220 que j'ai l'habitude de conduire tous les jours, ça fait un peu un choc. Et donc, nous voilà partis directement sur les grosses autoroutes américaines.
Alors ?
Largué au milieu de la circulation. Bah, ça va.
Ça roule.
Ça roule très
bien. Ça roule
pas
vite, en fait ?
Non.
Hein, parce que là-bas, les flics, ils sont chiants, tout.
Ben, c'est ce qu'on pensait, mais en fait, les limitations de vitesse, en fait, ce qui est rigolo, c'est que, par exemple, c'est 80 miles sur autoroute, donc ça fait 130 km/h, donc c'est à peu près comme chez nous. Mais tout le monde roule à cette vitesse. Les camions, les camping-cars, tout le monde. Et donc, c'est le truc le plus surprenant.
Ah, donc c'est facile au début de se mettre dans le trafic.
Voilà, puis c'est voilà, que de la ligne droite, ouais. C'est des routes très très larges, donc c'est pas compliqué.
Alors
c'est
là,
pas
la route de montagne. Là on va attaquer un gros morceau, hein, c'est la vallée de la mort.
Voilà, ben directement, donc là c'est
tout
le choc.
Tout de suite, après là, avoir pris la moto,
voilà.
Allez on y va, de toute façon pas peur.
Hein, exactement,
rien.
On passe de la frénésie de Las Vegas à la vallée de la mort, où il y a absolument
rien. Si, deux stations.
Il y a deux stations
essence. Tu nous racontes un peu le truc, là, hein, parce que...
Voilà, donc on fait le plein avant d'entrer dans Death Valley, évidemment, parce qu'on ne va pas tomber en panne dans cet endroit.
Tu mets ras le réservoir,
voilà.
Hein, juste au bord, là.
On roule, et j'avais prévu de faire le plein à la première station-service, qui,
là,
malencontreusement, est fermée.
Oh, et alors, que se passe-t-il ?
Eh ben, on essaie de...
Là, tu calcules, tu dis, oh là.
Le réservoir était à peu près à la moitié.
On fait demi-tour, on revient, on continue,
faire demi-tour, ça aurait
teste.
Été compliqué, parce que comme on avait tout réservé en avance, finalement, fallait avancer.
Ben oui.
Donc ben, on a continué à avancer en regardant avec crainte la jauge à essence qui descendait.
Ah, oui.
Mais finalement ça a été, en fait, la moto, il y avait une autonomie de quasiment 400 km.
Ouais. Et tu dis que la jauge c'est pas très lisible parce qu'en fait
c'est pas très fiable.
Elle bouge pas, puis elle se coupe, paf.
Voilà, c'est exactement ça, c'est un peu le
problème. T'es à zéro, alors tu dis, tu crois que t'as encore de l'essence et en fait tu te retrouves en réserve.
Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Donc mais on n'a jamais eu vraiment une grosse crainte parce qu'au fil des kilomètres on a appris à voir combien.
Après, quand tu connais la machine,
voilà,
tu sais
peu
à peu près.
Bah là, c'était juste tout
au début,
voyage, c'est la première journée.
Ah,
donc on avait un
peu
de mal.
C'est pas la consommation de la machine.
Non, voilà, c'est ça.
Ouais.
Donc on avait un peu de mal à doser les kilomètres, mais ça a été.
Alors, cette vallée de la mort, quelle température ?
Ben, comme on était en fin juin, ça monte vers 50-55 degrés.
Mais il faut la faire au matin, de toute façon.
Voilà,
donc 4h du matin.
4h du matin pour éviter les grandes chaleurs.
C'est impossible à faire en pleine journée.
Non, c'est impossible. Et même de toute façon.
C'est impossible tout au moins en moto. Toujours en moto peut-être.
Bah même
en voiture,
bah si, parce qu'il y en a beaucoup qui cassent les moteurs en fait.
Ils cassent les moteurs.
Ouais, dans les montées, c'est indiqué couper la clim pour éviter de forcer.
Ah carrément.
Ah oui, non. C'est, et les camping-cars ont interdiction de rouler dans Death Valley aussi,
d'accord,
à cause de la chaleur.
D'accord.
Il y a une légende qui dit qu'on peut faire cuire un œuf sur le capot.
D'accord. Ben oui. Bah, moi c'est pratique.
Hein. Bah oui.
T'as pas essayé sur le garde-boue ?
Non, j'ai pas essayé. Non, puis il était encore un peu tôt le matin. Donc même à 5h du matin, il faisait déjà 30 degrés.
Ouais, ça réchauffe.
Assez impressionnant.
Tu nous mets un petit peu de chaleur dans le cœur.
Oui, par rapport à ce moment, oui.
Voilà, donc après, on passe la vallée de la mort et direction San Francisco.
Voilà, direction San
Francisco.
C'était le but aussi. C'était une des grosses étapes
du
voyage.
Ouais.
Donc là, on a modifié un petit peu le parcours pour passer exprès sur le fameux Golden Gate. Pour arriver là-dessus.
Ah, bah alors là, forcément.
En Harley sur le Golden Gate, donc c'est.
Oui, vous avez pris des photos,
moi,
en plus.
Des. Ben. 5 ou 6 000, je crois.
Ouais. Voilà, donc ça, après, on redescend sur l'Utah, après.
Alors donc, San Francisco, on
San Francisco, on reste un petit peu sur San Francisco.
Oui, quand même, ville, on est resté 3 jours le temps de visiter.
Ouais.
Donc là, on a fait ça en transport en commun parce que les rues à San Francisco sont très, très pentues.
Et vu oui. Ah, alors oui, ça, il faut revenir un peu sur les photos que tu as mises sur ton blog.
Ça, c'est impressionnant. Et là, c'était.
C'est ce qu'on voit dans les films. Hein.
Mais c'est exactement ça.
C'est ça,
c'est ça qui est rigolo avec ce voyage. C'est la première fois qu'on y va, mais on a l'impression d'être déjà venu.
Bah voilà.
Parce qu'on a tellement
ça, c'est le cinéma américain.
Voilà.
Ça a fait l'impression.
Cinéma, les séries.
Ah,
avec Steve McQueen, il y avait un film. Je sais plus,
Bullitt, ouais, c'est ça. Avec une course-poursuite en Mustang dans les rues de San Francisco.
Voilà.
Donc oui, là on retrouve les décors, donc c'est rigolo, on n'est jamais venu et pourtant on connaît.
Tu dis, finalement c'est vrai, c'est pas du cinéma, c'est vrai, ça existe.
C'est tout à fait ça.
Just a little money spending.
Three roadies always there by your side. If you love beer drinking, to get your motor running. With more drinks to choose to fuel your alcoholic engine. You know what I'm talking, I'll keep on saying.
Yes. Manila, you gotta get going.
Drive with rhythm, feel that mojo vibe. Roadhouse, roadhouse, let the good times roll, let the good times roll. Roadhouse, roadhouse, we got bikes and booze, rock and blues. Roadhouse, roadhouse, rev it up now, let's do it all right. Roadhouse, roadhouse, everybody's gonna have a real good time tonight. Keep on saying
the place in Manila, you gotta get going.
Jive with the rhythm, feel this mojo vibe. Roadhouse, roadhouse, you're in control, so free your soul. Roadhouse, roadhouse, this is the place and now's the time. Roadhouse, roadhouse.
Allez, on continue le voyage avec Stéphane et son Electra Glide là-bas, donc aux USA. On redescend, on va partir du côté de la route mythique, la route 66.
Voilà, donc départ de San Francisco.
Un petit morceau de route 66. Hein.
Oui, un petit bout, parce qu'en fait, la partie la plus intéressante, c'est vraiment au niveau du désert du Mojave, le coin qu'on a fait. Donc là, on a fait une petite boucle vers Los Angeles, histoire d'y aller, mais bon, c'est pas... On se dit, on est à Los Angeles, c'est chouette. Mais ça vaut pas forcément le déplacement. Ça reste une grande ville où finalement il n'y a pas grand chose à voir, si ce n'est les studios de ciné, enfin les grands classiques. Et on est vite retourné vers le désert, donc pour faire un petit morceau de route 66, en effet.
Alors qu'est-ce qu'on y trouve sur cette route 66?
Eh ben pas grand-chose finalement, puisque quasiment tout est désaffecté. Donc il reste quelques lieux.
Il faut rappeler l'histoire de cette route. Hein, c'est ce qui permettait avant qu'il y avait ces fameuses autoroutes là.
Voilà, tout à fait. Ouais, qui permettait d'aller vers l'ouest.
Non, ça passait d'ouest en est. Hein,
oui, c'est ça. Hein, enfin d'est en ouest, quel sens historique.
Et du nord aux... ouais, voilà, c'est ça.
Ouais. Ça.
Et donc cette route, il reste des morceaux.
Il en reste des petits morceaux. En fait, la vraie route fait Chicago-Los Angeles, mais les morceaux qui restent et qui sont le mieux entretenus, ça reste en Arizona.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas, forcément, dans les documentaires, les films, on voit des espèces de petits bistrots, des bars.
C'est ça, mais il en reste encore quelques-uns.
Avec le mec qui
en fait.
Dort, les pieds sur, avec les Santiago.
Il en reste quelques-uns.
Tu vois, je ne veux pas trop...
Mais il reste...
Je ne suis jamais allé, mais tu vois, je...
sans y être allé, on connaît forcément, c'est ça qui est rigolo.
Tu confirmes.
Donc on s'est arrêté au Bagdad Café, qui existe encore.
Ah,
le fameux Bagdad Café
film,
du film. Le café existe encore.
Ouais, d'accord.
Il y a un autre petit café qui s'appelle chez Roy's, qui est l'image la plus connue de la route 66, au milieu du désert, avec le poteau lumineux marqué Roy's.
Ouais.
Et ensuite, il y a le village d'Otman, qui est très sympa, qui est un ancien village de chercheurs d'or, qui était conservé dans l'état. Bon, c'est un peu touristique sur ce coin-là. Il y a Seligman, qui est le coin où est le berceau d'une association qui maintient la route 66, du moins qui essaie de maintenir l'histoire. Donc là, il y a encore des vieilles voitures.
Parce qu'effectivement, cette route est interrompue. Et de moment, on ne peut pas la prendre.
Non, il y a plein de portions qui
n'existent plus.
Qui sont complètement effacées, où il y a l'autoroute qui a écrasé la portion.
Ah, oui.
Donc eux essaient de se battre justement pour conserver ça un peu en état.
D'accord.
Avec des vieux magasins. C'est assez sympa.
Et maintenant, direction, alors ça, le Grand Canyon.
Ouais, donc
alors
ça, c'est là, vraiment la claque.
Faut que
du
tu
voyage.
Me dises.
Là, ouais, s'il faut retenir.
Moi, j'ai regardé beaucoup de westerns.
Voilà, donc là,
j'imagine.
C'est le Grand Canyon, c'est la démesure. On peut voir autant de photos, autant de films qu'on veut.
Oui.
C'est juste gigantesque.
Ah ouais.
Ouais. Donc là, c'est une faille qui fait 1500, 1600 mètres de fond et 35 km de large. Et on arrive au-dessus, donc il y a des promontoires qui sont installés. Ça, c'est vraiment la claque.
Alors, comment ça marche? Il y a des routes, on peut monter sur
Oui, en fait, c'est des parcs nationaux qui sont gérés. Donc en fait, il y a une espèce de péage à l'entrée.
Tu visites les parcs, effectivement.
Voilà,
Donc apparemment, tu dis que c'est très bien entretenu.
C'est très bien entretenu, en fait.
Les gens respectent.
Oui, les Américains sont très respectueux.
L'environnement.
Contrairement à une idée reçue, ils sont plutôt écologiques.
D'accord.
Donc en fait, ils ont eu plus tard le déclic écologique, mais là, les parcs sont nickel. Et surtout, il y a une sécurité. On laissait toutes les affaires sur la moto.
D'accord.
On laissait les casques, on pouvait même laisser les clés dessus. Je pense qu'on n'aurait jamais touché.
D'accord, c'est sympa. Et puis, après ce Grand Canyon, direction Monument de Vallée.
Voilà, Monument de Vallée, qui est l'autre image extrêmement connue, avec les trois fameux rochers. Donc là, on arrive, on change d'état.
Là, c'est la fin du voyage, presque.
Là, ça commence à sentir un peu la fin. Donc là, c'est avant le retour sur Las Vegas, le détour par Monument de Vallée, qui est l'image de l'Ouest américain connu.
D'accord.
Avec tous les westerns.
Tous les westerns, oui.
Voilà, un parc national qui est géré par les Indiens, d'ailleurs.
Très bien.
Les vrais Indiens Navarro.
On va profiter aussi de dire aux auditeurs qu'on peut retrouver toutes tes photos sur un blog.
Oui, donc en fait, c'est sur un site internet qui est à la base le forum dédié à la GSXF.
Oui, oui. J'ai vu ça. Oui.
On le mettra sur le forum.
Oui, voilà, c'est facile sur Google, c'est le 1000 potes.
Alors j'ai vu qu'il y avait des motards qui ont demandé combien ça a coûté tout ça.
Voilà, donc le budget, c'est un peu le truc qui pique un peu. Là, on estime à peu près 2500 euros par personne. Sachant qu'on peut faire beaucoup plus, forcément, et on peut faire beaucoup moins. Le plus cher, évidemment, c'est d'y aller. C'est l'avion.
De le faire en vélo.
Ouais, mais ça fait des kilomètres.
Plus de temps.
Oui, pas en 3 semaines, en 3 mois.
Location de la moto.
Ouais, on a croisé des vélos, ceci dit.
Ah bien, je le sais.
Dans Death Valley, on en a croisé un. Par contre, après, la vie là-bas est très abordable, notamment l'essence.
Oui, l'essence, alors je suis pâté. Alors là, si on avait aspiré ici en Europe.
Ça varie beaucoup selon les États, parce que chacun a ses propres règles sur les taxes, mais ça varie entre 60 centimes et 1 euro le litre.
Ouais, c'est ça. C'est bien.
L'hôtellerie est très très abordable. On peut avoir des.
Tu vas venir avec tes photos que tu prends des 4x4 et des voitures qui sont à côté, il vaut mieux, c'est préférable pour eux d'avoir l'essence pas cher.
Oui, c'est vrai, quand on roule en V8, il vaut mieux que l'essence soit pas cher.
Parce que s'ils avaient appris l'européen.
Oui, c'est vrai.
Il y a longtemps qu'ils auraient revendu tout ça.
Ouais, il y a juste en ville, ils ont des voitures relativement petites maintenant.
D'accord. Écoute, on va terminer cette belle balade là-bas aux USA, en Californie, Utah, Nevada. Mm-hmm. Je suppose peut-être que tu vas repartir, d'autres projets peut-être pour l'année prochaine, le Nord peut-être.
On a fait la Scandinavie l'été dernier, et puis il y a pas mal de projets pour les années suivantes. Je me ferai un plaisir de revenir en parler.
Eh bien, impeccable. Guy, on termine un peu l'info pour le Touquet peut-être, non?
Pour le Touquet, oui.
Et en 3 semaines, hein?
Parce que là, je me croyais aussi
Tu étais parti, je voyais, ça te faisait rêver.
Ah oui, ça me faisait rêver. une petite question concernant la Harley, t'avais pas intérêt à la casser ou la faire voler
En fait, il y a des assurances, c'est un peu ça qui coûte cher, parce que la location de la moto n'est pas excessive, mais le prix peut rapidement doubler avec toutes les assurances.
D'accord.
Et nous, comme je suis pas joueur, j'ai pris toutes les assurances, donc voilà.
Dernière information, le mois prochain, 2 et 3 février 2013, c'est l'Enduropal, grande manifestation mondialement connue avec toujours...
Oui, même les Américains, ils connaissent.
Oui, oui, parce que ça vient...
Il y a qui c'est que ça existe?
Non, ça existait en Amérique.
C'est des bad jobs.
Oui, voilà. Ouais, mais enfin, c'est à peu près calqué. C'était Thierry Sabine qui avait créé cet enduro. Alors n'oubliez pas, 2-3 février, et avec d'essayer d'encourager Jean-Claude Moussier qui est en tête du championnat des courses sur sable.
Et s'il gagne,
il y a tout intérêt à avoir, pas faire de passer au sonomètre et que ça marche. Avec pas
ah
comme
oui, ça, c'est, faut pas
le coup de Yves Dedon il y a 12 ans.
À mon avis, il n'y aura pas de problème.
Non.
Enfin, je dis ça comme ça. Mais bon. Merci Stéphane d'être venu dans l'émission, d'être levé de bonheur. Je vous dis un dimanche, hein, c'est dur, c'est pas facile hein, quand même. Hein.
Et il est venu en moto.
Et puis il est venu en moto. Alors là, chapeau bas.
C'est un pur.
Merci Guy. Merci Laurent, notre technicien d'or. À dimanche prochain. Au revoir.
Au revoir.